Je ne sais pas si nos deux sœurs ou bien alors la chorale auraient encore un cantique sur le psaume 51. Crée, ô Dieu, en moi un cœur pur. C'est une prière que David a exprimée de la profondeur de son cas, de sa chute. L'homme doit d'abord reconnaître qu'il est tombé dans le péché et sans, qu'il est sans espérance, et qu'ensuite demander la grâce et la miséricorde et ainsi recevoir le salut. Est-ce que le chœur, le chef des chants est là, à un cantique qu'on pourrait chanter, ou bien ensuite nous allons entrer dans l'observation de la parole. Je voudrais encore rapidement souhaiter la bienvenue, les bienvenues à tous, et souhaiter les riches bénédictions de Dieu. En fait, je me suis écrit les noms de ceux qui ont appelé. Il y a eu des appels téléphoniques du monde entier. Peut-être que je le ferai encore tout à l'heure. Écoutons maintenant ce cantique. Écoutons maintenant ce cantique. Oui.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott, auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gott und Glück. Herr, dich halte nicht zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Leib und und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Singen wir es alle.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Bruder Schmidt wird noch mit uns beten.
Frère Schmidt va encore prier avec nous. Seigneur et Dieu, de tout notre cœur, nous te disons merci pour ton sang versé tel que nous l'avons chanté. Lave-nous. Nous te remercions de ce que tu nous purifies et tu nous sanctifies par ton sang précieux qui a été donné sur la croix à Golgotha. Nous te remercions et te demandons, demeure avec nous et ta bénédiction. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, soyez les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Je voudrais demander qui, pendant ce week-end, est là pour la première fois. Levez-vous, s'il vous plaît. Qui est parmi nous pour la première fois ce week-end? Pour la première fois parmi nous. Regardez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Nos bien-aimés frères et sœurs de la Grèce, particulièrement, soyez la bienvenue. Que Dieu te bénisse, bien-aimés frères. Que Dieu vous bénisse, que vous bénisse tous, qu'il bénisse, qu'il nous bénisse tous et soit avec vous tous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes reconnaissants pour les possibilités que nous avons sans être dérangé, ainsi être réuni au nom du Seigneur, oui, dans la présence de Dieu, pour écouter sa parole originale, pas des interprétations d'hommes, mais la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise. Ensuite, hier, pour la première fois, nous avons été entendus en 10 langues dans le monde entier, en direct, d'une manière que la réunion a pu être écoutée dans les langues les plus parlées sur Terre. Et la pensée suivante m'est venue, j'espère être bien compris. Il y a encore des pays qui n'ont pas encore les matériaux nécessaires pour avoir la liaison Internet. Et hier, il y a une pensée qui m'est venue, que nous qui, en cet endroit, écoutons la parole, ensemble, nous allons faire en sorte que nous pourrions, nous pouvons, nous puissions mettre à la disposition aussi de nos frères et sœurs dans les pays du tiers-monde, qu'ils puissent recevoir les matériaux nécessaires pour que partout dans les assemblées, ils peuvent en direct écouter et voir et avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Êtes-vous d'accord? Tous? Oui. Alors, la chose est déjà réglée. Nous avons hier eu à parler sur Israël. Nous allons pas maintenant venir à parler de cela, mais il y a beaucoup qui ont écrit. Cela est connu de nous tous. L'État d'Israël, 60 ans, dans toutes les publications chrétiennes, n'est-ce pas, cet événement a été mentionné par écrit. Je voudrais seulement mentionner la chose suivante. Lors de notre voyage à Tel Aviv, on nous a posé la question, particulièrement des conducteurs de groupe ont demandé qui nous sommes, ce que nous sommes, etc., etc. Et après qu'on m'ait posé cette question, le frère Jochen, on lui a aussi demandé qui nous sommes et tout ça. Il était assis devant au deuxième rang et la question principale était, croyez-vous au Dieu d'Israël ou au Dieu Jésus-Christ? Et sa réponse, nous connaissons tous notre bien-aimé frère, sa réponse aurait pas pu être mieux. Il a dit, je crois au Dieu d'Israël qui s'est révélé à nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Un témoignage laissé à Israël parmi ces personnes. Et nous avons déjà hier mentionné le grand problème consiste et est contenu dans la falsification par des interprétations de Genèse, déjà où il est dit faisons l'homme à notre image. Tout cela a été interprété, interprété et encore une fois interprété. Et toute l'humanité a été égarée par ces interprétations et a été égarée loin de Dieu par le christianisme. Et c'est peut-être raison que la vraie prédication est la seule et unique réponse de Dieu. Et hier, des citations de frère Branham, nous l'avons entendu, une parole parfaite, des promesses parfaites, une foi parfaite alors, pas venant de toi, pas venant de moi, mais venant de Dieu, par le Saint-Esprit, créé en nous. Ensuite, le frère Étienne remet des salutations particulières fraternelles. Le frère Joseph de Kinshasa, les frères du Gabon, et tous les frères qui ont appelé encore, le frère Graf, le frère Wallström, tous les frères remettent des salutations. Des frères de Johannesburg, des frères de Kapstadt, tous les frères remettent des salutations. Nous saluons fraternellement et nous aussi nous voulons aujourd'hui de cet endroit saluer tous les frères de tout notre cœur, et je le répète encore une fois, cela me réjouit de ce que Dieu nous a accordé la grâce, sans être dérangé, être rassemblé ici en son nom, et pour cela, de ce que maintenant dans le monde entier, nous pouvons suivre le message, le dernier message, et le publier partout pour que ça accomplisse ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 14. L'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et ensuite, comme témoignage, et ensuite viendra la fin. De la même manière, en ce qui concerne Israël, nous avons aussi ce devoir. Aussi ce devoir, sans nous mélanger dans la politique, nous avons le devoir d'être attentif et d'observer de quelle manière tout s'accomplit. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères allemand est au Liban. Le ministre des Affaires étrangères de la France est en Irak. Et en juin, il y aura la première conférence du Proche-Orient à Berlin. Tout est en train de nous montrer que nous sommes très proches de la fin. Car Israël, le figuier, le frère Schmitt, montre-nous encore le figuier. Israël, le figuier est en train de porter du fruit. Nous avons hier montré le figuier. Il a trois ans et il monte déjà les premiers rejetons, les premiers fruits qui apparaissent. Ça, c'est la chose merveilleuse dans un figuier. Un figuier porte déjà du fruit sans déjà. C'est pas comme les autres arbres. Dieu a ramené Israël, il a été de nouveau replanté et jamais il sera déraciné. Dieu le Seigneur a rassemblé Israël et il veille sur Israël comme un berger. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que nous vivons, nous pouvons vivre dans ce temps où les prophéties bibliques, que ce soit qu'elles aient lieu dans les prophètes Jérémie, Daniel, Ésaïe, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, les prophéties bibliques s'accomplissent devant nos yeux. Et ça, nous l'avons mentionné, la délégation, les plus grandes personnalités de Jérusalem ont été au Vatican vendredi et là-bas, ils ont parlé avec les 8 représentants du Vatican. Ils ont eu des négociations avec eux et en ce moment, il s'agit seulement de quel bien d'Israël doit devenir la propriété du Vatican et sur quelle région est-ce qu'ils doivent recevoir donc la propriété et dominer. Et c'est ainsi que tout se repart à l'Église catholique et c'est ainsi que même l'Église orthodoxe et tout cela, l'Église catholique, beaucoup de biens leur appartiendra en Israël. Nous n'avons pas besoin de biens dans un pays. Nous avons besoin de la prédication telle qu'elle est sortie de Jérusalem. C'est ce qui nous appartient. La même prédication telle qu'elle est sortie de Jérusalem. La première prédication que Pierre a tenue à Jérusalem. Nous avons aussi mentionné, je ne vais pas me retenir là-dessus, m'arrêter là-dessus, mais il y a eu ici des exposés à Rottenburg disant que Dieu est féminin, Dieu est représenté comme une femme et il y a tout un programme de l'Église catholique là-dessus. Et ensuite, nous repartons au psaume 2, au verset 7. « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Dieu est Dieu. Loué soit son merveilleux nom. Et nous disons avec le frère Jochen, le Dieu d'Israël, qui s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, est devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes nés du même esprit comme le Fils de Dieu fut engendré. Nous sommes fils et filles de Dieu, nés de nouveau pour une espérance vivante. Et nous attendons seulement la transformation de nos corps. Et ensuite, nous serons semblables à lui. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Car nous le verrons tel qu'il est. pour que aussi la coupe du péché soit pleine et de l'abomination, et l'égarement et la séduction soient pleines. Ici, dans ce magazine Edia Spectrum évangéliste, nous avons lu hier que même les églises protestantes devraient aussi se faire le signe de croix, le signe de croix, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans les titres. Pour chaque lecteur de la Bible, c'est clair qu'une telle formule n'a jamais, jamais existé et n'a jamais été utilisée par les chrétiens. Et nous allons une fois devoir l'exposer par écrit que la formulation originale dans Matthieu 28 s'intitulait « Allez dans le monde entier et enseignez tous les peuples et à observer ce que j'ai prescrit et baptisez-les dans mon nom. » Dans mon nom. Vous pouvez lire dans toute l'histoire de l'Église et particulièrement le Nouveau Testament en grec, en Grèce, de Nestlé, comme là-bas et en bas, il écrit comme en note comment est-ce que les mots dans le texte original se sont intitulés. Mais dans le temps où les Grecs et la religion helléniste a été mélangée et a dominé et est entré dans le christianisme avec toutes leurs idoles et leurs déesses, c'est ainsi que la doctrine d'une trinité a été inventée. Représentez-vous ce blasphème que Dieu serait constitué de trois personnes et cela d'éternité en éternité. Quoique la Bible 6700 fois témoigne que Dieu est un et unique et qu'en dehors de lui, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et tout de nouveau, nous lisons dans la Sainte Écriture que Dieu a dit « Je jure par moi-même ». Il n'avait pas un autre à sa droite et à sa gauche. Il aurait pu dire « Je jure à celui qui est à ma droite ». Non, il a juré sur lui-même. Nous croyons ce que le Dieu d'Israël a dit. Écoute, Israël, le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu est qu'un seul. Dans tout l'Ancien Testament, il s'est révélé. Et là où l'adversaire égarait les hommes, cela a eu lieu toujours avec l'interprétation de Genèse, chapitre 1, verset 1. Et là, le mot Elohim est écrit, et en tout, 31 fois dans le premier chapitre. Et Elohim a les deux significations. Une singulier et pluriel. Singulier en ce qui concerne la personne et le pluriel en ce qui concerne tous les devoirs et les attributs que Dieu a. Le seul Dieu unique est tout en tous. Il est créateur, juge, rédempteur, sauveur, roi. Il est tout en tous. Donc, c'est pour cette raison que le mot Elohim est un pluriel. Mais cela se réfère aux attributs et aux devoirs de Dieu. En même temps, il est aussi singulier, faisant référence à Dieu et à sa personne, mais au pluriel concernant tout ce que Dieu est et tel qu'il s'est révélé de plusieurs manières. D'abord en tant que créateur, ensuite en tant que conservateur, en tant que sauveur, en tant que roi, en tant que juge. Mais l'humanité doit faire déborder la mesure du péché et nous sommes la coupe du péché et nous sommes simplement reconnaissants à Dieu de ce que il a justement envoyé frère Branham. Dans la nouvelle édition de ce magazine ACP, le travail des chrétiens publicistes, j'ai fait mettre une annonce ici en Allemagne. J'ai eu le droit de mettre une annonce et avec la photo de frère Branham et avec une réunion de l'année 1948 48, où plus de 20 000 personnes déjà étaient réunies à Seattle, à Washington, et cet homme, pour écouter cet homme de Dieu. Et le texte s'intitule ainsi: revenir à l'église primitive. Et ensuite, c'est le titre. Et ensuite, le texte vient: quand, alors que le monde ne connaissait rien de Billy Graham, d'Oral Robert, de Thomas Osborne et d'autres évangélistes, n'avaient jamais entendu parler de tous ces évangélistes, déjà des milliers de personnes par le ministère de William Branham de 1909 à 1965, beaucoup avaient déjà expérimenté leur conversion et leur guérison. Deuxième paragraphe, il prêchait sans faire de compromis les enseignements, les doctrines fondamentales pures sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, comme les apôtres l'ont fait au commencement, tel que dans la Bible cela nous a été transmis. Dieu confirmait son envoi par des signes et des prodiges particuliers et a accordé un réveil, d'un réveil de guérison le plus grand de tous les âges. Encore un nouveau paragraphe, c'était le commencement d'un nouveau réveil qui maintenant si proche du retour du Christ, dans l'enseignement et la pratique, nous fait revenir au christianisme primitif et le retour du Christ est devant la porte. Et encore une question, si vous voulez savoir plus, tournez-vous vers nous. Et ce magazine va entre les mains de la chancelière et du chancelier, de toutes les personnalités en Allemagne. Ce magazine est lu de tous dans le pays. Nous voulons simplement ne pas laisser la lumière, la lampe sous la table, mais le chandelier doit être placé sur la table. Le pays entier doit savoir que Dieu, dans cet âge prophétique, a envoyé un vrai prophète qui nous fait revenir à la vraie parole et au vrai Dieu, qui nous a fait revenir à la vraie parole et au vrai Dieu. Et nous en sommes très reconnaissants. Ensuite, nous avons de manière particulière, le lundi 29 mai, dans le jour, dans le journal quotidien, nous avons lu un article particulier. Il est écrit ici, cela n'a pas complètement sa place ici sur le sujet du jour, mais cela s'ajuste à Genèse chapitre 3. Cela s'ajuste à Genèse 3. L'Afrique du Sud, dont une femme reçoit trois enfants et ils ont deux pères. Les enfants ont deux pères. C'était lundi le 19 mai 1900, donc 2008 en Afrique du Sud. Trois enfants ont deux pères. Johannesburg, un jugement sud-africain a décidé que les triplés ont deux différents pères, les triplés. Après le jugement, après la décision de la justice, après plusieurs années de disputes, donc le père doit seulement payer pour l'un des enfants. Le taxi de Kapstadt et a même constaté lors de la naissance que l'enfant est différent. Et la raison était une variation étrangère, donc étrange, de la fécondation. Cela se passe quand une femme, pendant 24 heures, a des relations sexuelles avec deux différentes personnes. Cela est possible. Si pendant 24 heures. Donc, et tous nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et frère Branham a dit réellement que le matin, il y a eu ceci qui s'est passé et l'après-midi, pendant les 24 heures, il y a eu une autre relation qui a eu lieu. Et ensuite, dans le jardin d'Éden, il y a eu des jumeaux, donc deux enfants sont nés. Et alors il est écrit qu'elle a continué et elle enfanta. Et c'est ainsi que nous avons en fait aujourd'hui seulement la confirmation qui est même écrite dans le journal. Seulement encore rapidement et nous allons venir à l'entretien de la parole. C'est une question. Combien croient que tous, réellement, nous sommes nés tous dans le péché original, comme David l'a dit dans le psaume 51, je suis enfanté dans le péché. Et lisons cela dans les versets qui sont écrits, psaume 51, ici il est écrit, n'est-ce pas, au verset 7, psaume 51, verset 7, voici, je suis né dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et c'est seulement après cette confession, que le cri de détresse se fait entendre. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et crée en moi un cœur nouveau, un cœur pur. Tous nous sommes nés dans l'iniquité, déjà séparés de Dieu depuis la naissance, sans espérance et sans foi dans ce monde. Et c'est peut-être raison que nous devons naître de nouveau. Car ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et ce qui est de l'esprit de Dieu est esprit. Et c'est peut-être raison que le Seigneur dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Donc, nous avons compris que par le péché, par la chute de l'homme, tous nous sommes nés dans la chute, dans cet état de chute. C'est peut-être la raison que Dieu devait faire un nouveau commencement, une nouvelle création, par un engendrement, par son esprit, qui ainsi nous fait revenir dans l'état primitif en tant que fils et fille de Dieu, nous ramener, nous rétablir dans cet état. Cela, en fait, a sa place dans la prédication de l'Évangile. Ensuite, nous avons quelque chose de très extraordinaire de frère Branham. Je vais le lire. En ce qui concerne le fondement de l'État d'Israël et ce que frère Branham, en relation avec cela, a expérimenté, a vu du 7 mai 1946, le passage au 7 mai, déjà en 1946, donc les États-Unis à Los Angeles avaient décidé que deux États, un Israélite et un Palestinien, un État israélite et palestinien, seront créés. Ils avaient décidé cela déjà depuis l'époque. Et frère Branham avait dit à l'époque, le 7 mai 1946, qu'est-ce qui s'est passé le 7 mai en 1946? Citation. Alors que le drapeau d'Israël, pour la première fois, de nouveau flottait sur Jérusalem, et que ensuite, vous savez, du 7 mai 1946, alors que l'ange de l'Éternel m'était apparu et m'avait ordonné, et m'avait envoyé, m'avait donné un ordre, il m'avait envoyé pour apporter ce réveil. Ensuite, il a dit un réveil que Dieu avait déterminé, et ensuite, il revient sur le sujet Jérusalem. le 6 et le 7 mai 1946. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, nous vivons dans des jours bibliques et nous avons une orientation et un enseignement divin reçu par la parole de Dieu. Et je crois, particulièrement bien-aimés frères, vous qui connaissez, n'est-ce pas, qui avez lu beaucoup sur l'histoire de l'Église, vous savez qui et tout ce qui s'est passé et par qui et comment. Et même sur le Troisième Reich et les holocaustes, plus de 1040 livres ont été écrits. Et personne n'a encore tiré le rideau pour montrer de manière biblique qui a porté et qui porte la responsabilité de tout ce qui s'est passé et avec qui est-ce que Dieu rétribuera et se vengera. Bien, frères et sœurs, on peut être intelligent et connaître toute l'histoire de l'Église et aussi avoir de la connaissance de l'Église, de l'histoire de l'Église et de la connaissance en général. Ça ne suffit pas. Si ce n'est pas une connaissance qui n'est pas par la parole de Dieu et accordée par le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais ordonner les événements de manière correcte devant Dieu. Au contraire, avec toute notre connaissance sur tout ce qui s'est passé, nous nous égarons comme tous les autres se sont égarés déjà avant nous. Remercions Dieu aujourd'hui consciemment de ce que il y a eu un 7 mai 1946. Et qu'au temps du soir, au soir de ce 7 mai, alors que frère Branham était à Green's Mills en prière et que sa Bible, il avait sur ses genoux et qu'il était en train de la lire et que subitement, la lumière surnaturelle est entrée dans la salle, dans la pièce où il était et l'ange de l'Éternel lui est apparu, est descendu dans cette lumière et frère Branham s'est levé, a sauté et a tremblé. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, ne crains pas, car j'ai été envoyé devant la face de Dieu pour te donner ton ordre et ton mandat. Et dans tous les détails, l'ange de l'Éternel lui a montré comment est-ce que son ministère aura une première phase, une deuxième et une troisième phase. Et bien aimés frères et sœurs, il faut toujours de nouveau que cela soit dit. Même si les hommes se moquent de nous et rigolent, il faut toujours de nouveau qu'on le répète. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Nous n'avons pas non plus, tombés dans la séduction d'un frère qui subitement se présente comme quelqu'un de particulier, ayant un ministère particulier. Non, mais par la révélation de ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, voici, je vous envoie le prophète Élie. C'est une promesse dans la Bible, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Qui veut renier cette promesse qui est écrite noir sur blanc dans la Bible? Qui veut la retrancher de la Bible? Et si quelqu'un dit oui, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 17, verset 11. En vérité, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et de la même manière, dans Marc 9, au verset 12, Élie vient et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Mais ici est le point important. Seulement les élus de Dieu qui ont été déterminés et prédestinés à la vie éternelle et à la gloire éternelle, qui ont été déterminés à prendre part à la première résurrection, à prendre part à l'enlèvement, à prendre part au festin des noces. Seulement ceux-là sont ceux qui peuvent croire, comme le disent les Écritures. Et c'est ainsi que nous sommes encore à ce que nous avons eu à dire hier en lisant les citations de frère Branham. La parole parfaite contient la volonté et les promesses parfaites de Dieu. Et celui qui les croit et qui obéit, il vient à la foi parfaite, c'est-à-dire à la foi qui vient des Écritures et qui nous ramène dans les Écritures et qui nous révèle Dieu et son dessein du salut par sa grâce. Aussi, en ce qui concerne cela, beaucoup de choses pourraient être dites. J'ai deux, trois versets que je veux lire de l'évangile de Jean au chapitre 8 et d'autres observations nous représenter devant les yeux. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, nous voulons lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au moment où les vérités divines de la parole de Dieu par le Saint-Esprit nous sont révélées, c'est à ce moment-là que nous sommes affranchis de toutes les interprétations et toutes les imaginations humaines, directement affranchies. Et ensuite, c'est ainsi que toutes les interprétations perdent leur valeur et la place qu'on leur a donnée, la première place qu'on leur a donnée. Et nous nous soumettons seulement sous la main puissante de notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, regardez s'il vous plaît un peu devant. Tous, nous venons de différentes églises, de différents pays, de différents pays, et de différents enseignements, avec différentes conditions et passés dans notre vie personnelle et aussi dans la vie spirituelle. À qui est-ce que Dieu doit donner raison? Est-ce que tous, nous ne devrions pas nous soumettre à Dieu et tous recevoir le même enseignement qui vient de Dieu pour que ici puisse s'accomplir? Ils seront tous enseignés de Dieu. Et cet enseignement n'est pas dans une église, dans une organisation, n'a jamais été dans une église, dans une organisation. Cet enseignement, c'est Dieu le Seigneur lui-même qui enseigne son peuple. Et tous, nous savons que avant que notre Seigneur, les disciples, avaient mandaté les apôtres d'aller dans le monde entier et prêcher et enseigner, avant cela, pendant 40 jours, il les a enseignés avant que quelqu'un puisse transmettre aux autres l'enseignement divin. Il faut qu'il soit lui-même enseigné par Dieu. Et cela se passe seulement par la révélation. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé ses apôtres et ses prophètes. Et soyez un peu sincères, à quoi est-ce que ça nous servirait aujourd'hui si nous savions ce que Dieu a fait dans tout l'Ancien et aussi au commencement de l'Église, et donc du Nouveau Testament? Et si nous savions comment est-ce qu'il a accompli les promesses de l'époque? Mais si aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, si nous ne savions pas ce que Dieu nous a promis pour ce temps dans lequel nous vivons, ce qui est planifié dans le conseil du salut de notre Dieu, de la part de Dieu, déterminé par lui, pour cette époque dans laquelle nous vivons, quelles sont les promesses? Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu pour cette époque si décisive de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que Dieu a promis dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu fait pour conclure dans l'Église son œuvre, pour achever son œuvre, et cela avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur? C'est justement la grâce que Dieu nous a accordée de reconnaître ces choses comme cela a été chanté tout à l'heure dans ces sept couplets. Et nous pensons aussi à cette parole de Exode chapitre 33. Seigneur, si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître ton plan, tes voies, tes desseins. De sa plénitude, Jean 1, de sa plénitude, nous avons trouvé tous grâce sur grâce. Ça, c'est Jean chapitre 1. Nous avons trouvé grâce sur grâce. Grâce de reconnaître d'abord que nous ne savons rien. Grâce de savoir que toutes les interprétations humaines ont égaré, ont fait qu'égarer et séduire. Grâce de reconnaître que ceci est l'heure de la vérité et lié à cela, une grande responsabilité est venue sur nous. Nous ne nous avons pas nous-mêmes comme ça cherché ces choses et tâtonné pour trouver ces choses. C'est Dieu, par sa grâce, qui nous a déterminé à cela pour que, à la fin du temps de la grâce, la lumière de la gloire de Dieu, encore une fois, devant la, dans la face du Christ Jésus, brille et qu'encore une fois, les vérités bibliques soient prêchées telles qu'elles ont été prêchées au commencement. Donc, si vous demeurez dans ma parole, c'est ainsi que vous êtes réellement mes disciples. Oh, que Dieu puisse sceller, écrire ce verset dans notre cœur. Oh, et pour nous montrer comment est-ce que c'est important de demeurer dans la parole, de demeurer dans la parole, car ça, c'est l'expression de notre Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, avez-vous maintenant dit, Seigneur, accorde-moi que je puisse demeurer dans ta parole? Ensuite, nous lisons le verset 32. C'est un entretien avec les scribes et pharisiens, toujours de nouveau. Il y avait eu des discussions entre ceux-là qui ont contredit notre Seigneur. Au lieu d'être calme et d'écouter sa parole et de l'accepter, ils auraient eu assez de temps pour parler. Et maintenant, le temps était arrivé où tous les scribes et pharisiens et tous les sadduciens auraient dû se taire pendant tous ces âges. Hein, ils n'ont pas eu assez, n'est-ce pas, pour parler, et pour retenir le peuple. Et maintenant, où le Seigneur avait la parole, ils ont voulu encore avoir quelque chose à dire. Et ici, au verset 32, dans Jean
8,
donc ici, dans Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? La même question aujourd'hui peut être posée à tous les prédicateurs, à tous les pasteurs, à tous les croyants. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jean 8, verset
43.
Ensuite, arrive tout de suite la réponse. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ça, c'est le grand problème. Aussi dans notre temps. Quel prédicateur veut même écouter, se calmer et se taire et écouter? Tous savent toujours mieux les choses et n'ont pas besoin eux-mêmes d'être enseignés. Tout se répète dans notre temps. Et ensuite, le verset 44. Vous Verset 45, pardon, 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ici, nous reconnaissons que la foi est un don de Dieu. Est un don de Dieu. Et nous reconnaissons que la foi vient de la prédication de la parole de Dieu. Et elle nous lie avec Dieu. Et la foi nous conduit dans la révélation alors de la parole de Dieu. Nous lisons encore le verset 46 et 47. Qui de vous me convainc? Donc, au verset 45, il relit le verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ensuite, nous avons le verset 47 adressé à nous, nous qui aujourd'hui écoutons la parole vivante, la vraie parole, la croyons et la et l'écoutons. Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ça, c'est le premier groupe. Ensuite, le deuxième groupe. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ensuite, c'est là que la grande discussion a commencé. Toujours de nouvelles discussions avec les scribes et pharisiens qui vivaient de cette imagination d'être dans le ministère de Dieu, et tout était qu'une forme, était devenu qu'une tradition. Et car Dieu n'est dans aucune forme morte, Dieu est dans aucune tradition. Dieu est un Dieu vivant et il se manifeste, il se révèle à nous comme notre Seigneur après sa résurrection. Ne s'est révélé qu'à ses disciples et toujours d'une manière nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, en regard à ce que nous avons considéré hier, seulement quelques pensées de la parole de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, lu d'Ésaïe 28, nous avons lu les versets 15, 16, 17 hier, Ésaïe 28, et nous avons ensuite relevé, nous n'avons pas encore lu le verset 21, et ça je voudrais maintenant le faire. Ésaïe chapitre 28, le verset 21, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Perazim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Le chapitre 29, verset 6. Ésaïe 29, verset 6. C'est de l'Éternel désormais que viendra le châtiment, avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. À cela, nous repartons à Exode. Exode, le chapitre 9. Ici, il nous est montré ce qui s'est passé alors que Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. Sous les sept fléaux qui du temps de Moïse avaient eu lieu, où Dieu le Seigneur avait dit, laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve. Exode chapitre 9, verset 13. Ensuite, nous lisons au verset 17 et 18. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, c'est pendant le septième flot, Féo. Et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Le septième fléau était c'était les grêles, comme hier dans Ésaïe 28, nous l'avons lu, que la grêle ôtera le toit de la fausseté et du mensonge. Encore à lire au verset 22 et 23. Dans Exode 9, je lis le verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Maintenant arrive le miracle qui consistait à ce que le peuple d'Israël a été épargné, qui était rassemblé autour de Moïse. Exode 9, verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Alléluia! Remercier son Dieu. Dieu, c'est lui qui détermine, qui dirige les nuages. C'est lui qui contrôle toute la nature. Il détermine ce que la nature a à faire. Nous repartons maintenant à Joël, à Josué, pardon, le chapitre 10. À Josué, le chapitre 10. Ici, nous lisons à partir de la deuxième partie du verset 11. Josué, chapitre 10, la deuxième partie du verset 11. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. À chaque fois, pendant ces deux cas, lors de l'exode par Moïse, sous Moïse, et lors de l'entrée par Josué dans le pays, le jugement de Dieu, dans les deux cas, la sortie et l'entrée, le jugement de Dieu a frappé et les grêles ont servi à quelque chose, ont accompli leur devoir. Maintenant, repartons au verset 12 et 13. Autrefois, Josué priait, s'adressait sa prière au Seigneur. Dans le jour où le Seigneur a réglé le compte a livré les
Amorites,
ce peuple aux Israélites, les Amoriens. Et ce fut le jour où ces sept rois ont été livrés à Israël et que Dieu a accordé à son peuple Israël une victoire extraordinaire. C'était le jour dans lequel Josué a dit, le verset 12, la deuxième partie, et cela, et il dit en présence d'Israël, dans la deuxième partie du verset 12, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et celui qui continue à lire, au verset 13, et le soleil s'arrêta et la lune suspendue sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Bien-aimés mes frères et sœurs, nous pourrions encore lire toutes ces choses. Le jour était passé, le jour était déjà passé, le soleil était en train en fait de se coucher. La lune s'était déjà retiré. Et la victoire n'était pas encore présente. Et maintenant, Josué était dans la détresse. Sans victoire, on ne peut pas revenir de la guerre. Et voilà qu'il a regardé à Dieu au ciel. Et il prononçait les paroles. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le Seigneur a écouté et a fait ce qui a été dit. Et comme c'est écrit au verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué était en possession des promesses, en possession de l'arche de l'alliance, du contrat divin. L'alliance avait été faite et la parole était dans l'arche de l'alliance, l'alliance parfaite révélée par Dieu pour l'époque. Et Josué avait agit à cause de la parole parfaite qui était sortie de la bouche de Dieu. Il avait la foi parfaite à cause de la parole parfaite qui était sortie de la bouche de Dieu. Et il a agi par la foi. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour nous et avec nous? Nous avons aussi la parole de l'Alliance que nous avons souvent entendue. La parole pure et claire et vraie de Dieu. La parole qui demeure éternellement. Et cette parole a produit en nous une foi parfaite, une confiance parfaite en Dieu. Mais ce n'est pas la foi en ce que tu peux faire et en ce que je peux faire. Non, mais c'est la foi en ce que Dieu est avec nous pour confirmer sa parole. Et ça ne devrait pas être trop difficile pour nous. Encore les versets de l'Apocalypse pour nous montrer que cela a lieu dans l'aps du temps, au moment où les deux témoins exécuteront leur ministère. Je suis très reconnaissant pour la parole et exactement reconnaissant pour l'ordre, la dispensation des événements et leur place et leur ordre dans la parole de Dieu, dans la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament, tel que cela nous a été transmis ainsi. Apocalypse, chapitre 8, verset 7.
Nous avons Offenbarung 8.
Nous avons Apocalypse 8 devant nous. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Un silence d'environ une demi-heure au ciel, dans le ciel, lors de l'ouverture du septième sceau, d'une demi-heure, un silence. Et ensuite, dans Apocalypse 8, suit après cela le contenu de ce qui est révélé dans le septième sceau, c'est-à-dire au verset 2. Nous allons directement au verset 7. Du verset 2 au verset 7, je crois. Donc, lisons le verset 2. Apocalypse 8, verset 2. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Ensuite, la première trompette a lieu déjà dans Apocalypse 8, au verset 7. Et le premier ange sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Vous pouvez tous le lire, ce qui va se passer ensuite, tel que cela nous est montré ici dans la Bible. Et comme hier, ici je le disais, ce qui s'est passé vendredi le matin à 5h moins 6 jusqu'à 5h 6, subitement, il s'était complètement sombre en plein jour et des grelons sont tombés avec puissance. Et nous avons ici la photo. Les grêlons sont comme des œufs, de poule. Et nous avons nos deux toits qui sont complètement abîmés et qu'en plein de trous. Et ici, nous avons encore une vue d'ensemble de ce qui a pu se passer comme dégâts en seulement 7 minutes, de 5h moins 6 à 5h, à peu près 6. Ça a duré à peu près 6 minutes, pas longtemps. Mais nous avons, quand vous sortirez, vous verrez dans le cadre, à l'entrée, nous avons mis les photos des grêlons et leur. Et c'était vraiment quelque chose de puissant. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que nous avons ça en cet endroit, justement maintenant? Pourquoi cela se passe maintenant dans le centre et jamais dans les années passées auparavant? Nous avons vu une telle chose. Nous avons jusqu'à maintenant toujours de nouveau appris des nouvelles. Nous avons appris ce qui s'est passé en Chine par le tremblement de terre. Nous avons entendu comment à Myanmar, 78 000 personnes n'ont plus existé. Nous avons entendu, n'est-ce pas, toutes les catastrophes naturelles. Plus de... Ouragans ont soufflé sur les États-Unis et ils ont fait que laisser des destructions. Et subitement, à cet endroit, ici au centre missionnaire, je suis en fait reconnaissant. C'est mon temps où je me réveille, donc je dois toujours être debout à 5h moins 5, sinon ça veut dire que le jour a déjà perdu un peu de temps pour moi. À 5h moins 5, je dois déjà être debout. Et j'ai seulement besoin de m'habiller et d'aller au balcon et de regarder ce qui se passe devant mes yeux. Et déjà tout de suite, j'ai pensé, en voyant la grêle, j'ai pensé à ce qui va se passer dans la parole prophétique. Et nous regardons aujourd'hui dans ce qui s'est passé du temps de Moïse et dans les jours de Josué. Et ensuite, ce qui va se passer dans le temps après l'enlèvement. Quand les sept trompettes, les sept anges de trompette, et aussi bien sûr, quand l'ange de la septième, du septième fléau versera donc le jugement sur la terre. Lisons encore le verset 7 d'Apocalypse 8. Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Dans Apocalypse 10, nous avons le ministère des deux témoins à partir du verset 1. Pardon, chapitre 11. Et nous lisons au verset 15 dans Apocalypse, le chapitre 11. Au verset 1, nous avons, n'est-ce pas, le ministère des deux prophètes. Ensuite, après le verset 12 d'Apocalypse 11, où les deux prophètes, après l'accomplissement de leur ministère, sont pris et montent au ciel sur une nuée. Ensuite, suit le verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Et ensuite, le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et ensuite, pour raccourcir les choses, vous pourriez le lire tous, ce qui est écrit au verset 16 et 17. Lisons le verset 17 directement. Apocalypse 11, verset 17. Ici, la prière de reconnaissance monte avec ces paroles en disant : nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ensuite, il nous est dit que les peuples et les nations se sont irrités. Et imaginez-vous, au verset 19, il est écrit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut, alléluia, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous voyons ce qui s'est passé du temps de Moïse, du temps de Josué, c'était déjà accompli déjà. Ce qui s'est passé du temps de Josué a eu lieu, c'est accompli déjà. Du temps de Moïse avec les Israélites, et cela va se répéter encore quand le temps sera arrivé. Seulement encore cette parole pour que tous puissent savoir où est-ce que cela a sa place. Apocalypse, chapitre 16, verset 17, jusqu'au verset 21. Je lis seulement le verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Donc c'est accompli. C'en est fait. La même parole comme dans l'évangile de Jean. C'est accompli. C'en est fait, ça a eu lieu. C'est passé, c'est accompli. C'est arrivé. Le verset 18, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Nous pourrions continuer à lire. Mais nous sommes responsables devant Dieu et devant vous de vous lire encore deux versets du Nouveau Testament. Car comme hier nous l'avons dit, sans considérer sur quel sujet nous parlons, tous les sujets sont bibliques. Mais ce ne sont pas tous les sujets qui contiennent l'appel à sortir, la préparation et l'achèvement de l'Église. Ce ne sont pas tous les sujets qu'on ces sujets-là comme noyau, comme centre. En général, tout va s'accomplir et nous voyons les différents sujets qui éclaircissent les événements de la fin des temps et comment est-ce que tout est écrit déjà dans la parole prophétique. Mais qu'est-ce qui a été dit à l'Église, pour l'Église particulièrement? Pour cela, il faut que nous allions dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le deuxième verset. Ici, Paul avait seulement qu'une seule chose devant les yeux. Il n'avait pas ici le jour du Seigneur devant les yeux, pas le jugement devant les yeux, mais il avait ici, dans 2 Corinthiens 6, l'épouse de l'agneau devant les yeux. L'épouse de l'agneau, telle qu'elle s'est égarée, et comment est-ce qu'il veut qu'elle revienne à son époux et qu'elle lui soit conduite comme une vierge chaste et sainte. 2 Corinthiens 6, versets 2 et 3, connu de nous tous. De Corinthiens 11, le verset 2 et 3. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3. Mais bien, mes frères et sœurs, si parfois nous élevons la voix, ça vient du zèle divin, de la jalousie de Dieu. Car nous voulons que tous ceux qui sont appelés à sortir et qui ont été séparés Nous ne voulons pas permettre qu'il soit encore conduit dans un mélange, dans une interprétation et dans un égarement. Et c'est ainsi que nous sommes jaloux de vous, pas d'une propre jalousie, mais comme il est écrit ici, d'une jalousie de Dieu. Car je suis jaloux de vous, nous jalousie de Dieu. En allemand, je suis rempli d'un zèle pour vous, d'un zèle qui vient de Dieu. Et c'est ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, à cause de la préparation de l'Église épouse, qui est liée au dernier message qui doit être prêché dans sa clarté pure et sainte. Ici, il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Esaïe, Dieu, le Seigneur dit, je me fiancerai à toi dans la justice et dans toute éternité, pour toute éternité. Ici, la relation d'amour entre l'épouse et l'époux nous est montré. Et dans Matthieu 25, il est écrit, voici, l'époux vient. Et Paul écrit, je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ. Je veux que vous lui soyez présenté sans être influencé par le serpent, comme Ève a été séduite par sa ruse. Et au verset 3, sans que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il lit le verset 3 de 2 Corinthiens, chapitre 11. S'il vous plaît, veillez sur vos âmes. Et nous allons demander à Dieu qu'il puisse veiller sur nous tous à cause de sa sainte parole que nous avons entendue, que nous avons cru. Ensuite, au verset 4, il nous est dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Bien-aimés frères et sœurs, je le dis avec douleur. Et il y en a qui ont déjà constaté que j'ai perdu du poids. Mais je vous dis, aussi l'état à l'intérieur des croyants, parmi les croyants qui se réfèrent au message et au message de la fin des temps, et au messager crie au ciel. C'est du désordre impensable et toutes sortes d'interprétations. Ils interprètent ce qu'ils veulent et comme ils le veulent, et chacun marche dans leur propre voie en se référant au ministère du prophète et au message, et ils foulent au pied la parole de Dieu. Non, nous disons que seulement, et ils prétendent, ils disent que c'est seulement le prophète qui connaissait la parole et c'est seulement à lui que la parole a été révélée. Et que déjà le résultat de la parole de Dieu, la parole de Dieu est seulement dans les prédications de Frère Branham. Cela se fait entendre bien, n'est-ce pas? Non, mais pour notre compréhension des Écritures que le Seigneur nous a accordée, c'est la chose suivante qui s'est passée. Dieu a envoyé son prophète, mais la relation était comme autrefois entre Paul. La relation n'était pas avec Paul. Paul n'a pas dit, j'ai reçu le ministère, je vous ai fiancé à moi. Non, je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ. Je vous ai relié avec Christ. Vous ne m'appartenez pas, vous appartenez à Christ. Et la même chose est aussi valable pour le message et le messager. Dieu ne nous a pas fiancés avec William Branham. Dieu nous a fiancés avec lui-même, par sa parole et son esprit, par sa grâce. William Branham était un homme comme Élie. un homme comme toi et moi. Mais la parole que Dieu lui a révélée nous est devenue précieuse. Et comme souvent nous avons eu à le dire, chaque prédication qu'il a tenue est venue de la parole de Dieu et nous a ramenés dans la Bible de nouveau. Dites Amen à cela. Chaque prédication nous a ramené à Dieu et à la parole de Dieu. Seulement encore d'Éphésiens, la parole connue au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui, une sainte vocation, une vocation céleste nous a été adressée.
Jésus Christ, notre
pour un jour être semblable à Jésus-Christ, notre Rédempteur. Le verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Est-ce que nous voulons, avec un amen dans la prière, répondre à ce verset, que nous puissions en toute douceur, patience et humilité, nous supporter les uns les autres avec amour, tel que Dieu en Christ nous a reçus. Nous voulons de tout notre cœur nous recevoir. Et ainsi, il s'agit ici dans ce verset, dans ce chapitre, au verset 3, de l'union, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'adversaire, c'est lui qui sème de l'inimitié, du désordre, de la division. C'est lui qui divise les frères. Et tel que Paul a dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie divine, d'une jalousie de Dieu. C'est ce qui est écrit. Nous devons comprendre que nous devons essayer de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Comment? Par le lien de la paix. Ensuite, le contexte sur verset 4 et 5. Il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul Seigneur. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Encore aujourd'hui, parmi nous. Cette parole, nous la recevons de tout notre cœur personnellement. Je crois que j'ai entendu le Amen du frère Olvi de la Finlande. Oui, nous sommes réellement réunis ici de tous les différents continents et aussi liés avec tous ceux qui pouvaient se brancher par l'Internet. Que tous, ceux qui appartiennent au corps du Seigneur, que tous ceux qui appartiennent à l'époux, qui puissent tous prêter l'oreille à la voix de l'époux. Et tel que dans le domaine terrestre, l'époux trouve une épouse et et il y a un fiançaille qui a lieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous attendons que le temps de fiançailles prenne fin et que les noces aient lieu. C'est ainsi que nous le lisons dans Apocalypse chapitre 9, 19. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Si aujourd'hui il y a des frères et sœurs parmi nous qui veulent consacrer entièrement leur vie à Dieu, aussi sont prêts à faire le deuxième pas, c'est-à-dire se laisser baptiser, Et comme il est écrit, et il a été dit dans la première prédication, et elle est valable jusqu'à la dernière prédication avant le retour du Seigneur. Repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême s'ajoute au pardon des péchés. Le pardon des péchés a eu lieu par le sang de l'agneau. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le sang, le pardon a toujours lieu par le déversement du sang, que ce soit le temps de Moïse. Et c'est écrit, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang qui est répandu pour plusieurs. Le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut ont eu lieu par le sang de l'agneau dans lequel la vie de Dieu était et par la grâce de Dieu nous a été accordée. Le pardon est un pas d'obéissance qui prouve que nous sommes croyants. Selon la parole de l'Écriture, Marc 16, verset 16, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Tous ceux qui ont cru dans l'Église primitive, tous les croyants, tous ceux qui ont cru et qui ont expérimenté le pardon et la grâce, le pardon de leurs péchés, et qui ont accepté Jésus-Christ comme le sauveur personnel, se sont laissés baptiser. La même chose est valable aujourd'hui pour nous et partout. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le sauveur personnel, devraient faire le pas du baptême, car c'est par ce pas du baptême que à la foi l'obéissance est ajoutée. Et c'est comme ça que l'obéissance de la foi vont ensemble, comme autrefois, comme auparavant, la désobéissance et l'incrédulité ont formé une paire. C'est la preuve que des personnes sont mortes avec Christ, crucifiées avec lui, et que ce ne sont plus eux qui vivent et qui décident, mais qu'ils ont consacré réellement leur vie à Dieu, qui a décidé pour eux qu'ils soient croyants et qu'ils se laissent baptiser. Que Dieu le Seigneur bénisse sa parole que nous avons écouté pendant ce week-end et que nous avons considéré, que ce soit que cela considère Israël ou d'autres accomplissements des prophéties bibliques, que cela concerne l'Église, la foi, l'obéissance, l'enseignement, nous acceptons tout tel que Dieu, par sa grâce, nous l'a accordé. S'il vous plaît, comprenez-le bien. Je suis jaloux, nous, en tant que frères, demandez à tous les frères qui servent dans le ministère de la parole, nous sommes jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Et nous voulons ensemble voir la gloire de Dieu. Et je le crois. Je le crois. Je crois que Dieu nous a appelés à sortir, nous a séparés, nous a mis à part et nous apporte en accord avec sa parole et sa volonté et continue à le faire d'une manière que complètement à la fin, épouse et époux seront un seul cœur et une seule âme unis, comme ce cantique le dit, cœur lié au cœur, chercher en Dieu son repos, que l'amour, la flamme de l'amour brûle sur la marche vers le pays natal. Nous voulons élever tous nos voix et louer aujourd'hui le Seigneur pour sa parole. J'ai encore une question. Est-ce que Dieu a pu nous ouvrir l'intelligence pour les Écritures, la compréhension pour les Écritures, pour la parole prophétique, pour l'accomplissement? Alors dites Amen.
Amen.
Alors nous voulons nous lever et chanter ensemble tel que je suis, sans rien de moi. Et ensuite, nous allons prier pour tous ceux qui veulent se laisser baptiser.
Pouvons-nous demander
que tous ceux qui veulent se laisser baptiser maintenant viennent devant. Venez simplement devant, vous tous qui voulez vous laisser baptiser, et entendre nous chantons ce chœur encore une fois.
Amen.
Nous sommes aussi très reconnaissants à Dieu de ce que vous écoutez, même si vous parlez une autre langue, vous écoutez la parole de Dieu dans votre langue. C'est ainsi que c'était le jour de la Pentecôte. Lors de l'effusion du Saint-Esprit, tous écoutaient dans leur propre langue la prédication, les grands jours, la prédication des bienfaits de Dieu. Vous tous qui êtes venus de la Grèce, de la Soviétunion de manière originelle, ou bien alors de la Russie, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour vous. Très reconnaissant à Dieu pour vous. Dieu aussi a fait en sorte que le rideau de fer n'existe plus, même si cela devrait se passer de manière politique. Nous pouvons utiliser le temps et utiliser les frontières ouvertes et les portes ouvertes pour prêcher la parole. Et quand je pense que nous avons des émissions en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, et aussi à Kazakhstan, à Manata, et qu'il y a des personnes, des gens qui toujours de nouveau écrivent et appellent parce qu'ils ont écouté les émissions et qu'ils ont été touchés, et qu'aujourd'hui, c'est à vous. Vous êtes ici aujourd'hui. Oui. Nous nous réjouissons. Oui. Nous nous réjouissons de tout notre cœur. Avec vous. Oui. Et le Seigneur, qu'il puisse bénir aussi tous ceux qui sont venus devant. 18 personnes qui veulent se laisser baptiser, qui vont se laisser baptiser. Aujourd'hui, le souhait a été exprimé, qu'après le baptême, nous puissions encore prier pour tous ceux qui le souhaitent. Et ça, nous allons le faire après le baptême. Oui, alors venez tous au bureau, vous tous qui voulez qu'on prie pour vous, et nous allons prier pour tous ceux qui, après le baptême d'eau, désirent qu'on leur impose les mains et qu'on puisse prier pour eux. Ce sont des personnes qui ont lu Actes des Apôtres, chapitre 8. La foi est venue de la prédication que nous trouvons là-bas. Et en cet endroit, nous sommes prêts à accomplir tout ce qui est témoigné dans les Actes des Apôtres. Et Dieu accorde sa bénédiction à cela. Vous pouvez aussi, après le baptême d'eau que vous ayez mangé, vous pouvez venir ensemble prier. Peut-être qu'il y en a encore d'autres qui veulent aussi prendre part à la prière. Maintenant, nous demandons au frère Schmitt qu'il puisse venir. Frère Schmitt est l'homme que Dieu a béni. En fait, le frère Rousse, la famille Rousse nous salue tous. Frère Schmitt et moi, nous avons visité le frère Rousse. Nous l'avons vu en bon état, mais il a un peu de difficultés encore pour marcher. Sinon, il va bien. Nous n'avons pas perdu, abandonné la foi et l'espérance. Nous restons attachés à la foi et à l'espérance, car pour Dieu, toutes choses sont possibles. Vous avez consacré votre vie au Seigneur, à Dieu. Bien-aimé sœur, tu parles allemand? À côté de toi, oui. Tu parles allemand? Vous parlez le français? Non. Vous comprenez l'allemand? Un peu.
Ce
n'est pas suffisant. Mais vous avez consacré votre vie au Seigneur, toi aussi. Qu'est-ce que tu parles? Le français?
Oh.
L'anglais? C'est vrai, le roumain? Le roumain. Donc nous avons le traducteur là, n'est-ce pas? D'accord, mettez-vous. Bon, c'est très important. Oui.
Français.
D'accord.
Ma sœur.
Juste à côté. Merci beaucoup. C'est très important que tous ceux qui veulent se laisser baptiser comprennent ce qui est dit. C'est très important. Très important. Pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Aujourd'hui, vous faites l'alliance avec Dieu, vous confirmez de votre part l'alliance avec Dieu, l'alliance d'une bonne conscience, comme Pierre l'a écrit. Aujourd'hui, vous confirmez par le baptême que vous avez accepté Jésus-Christ, votre Sauveur, et qu'avec lui, vous êtes mort, et que vous ne vivez plus vous-même, vous n'allez plus vivre vous-même, mais que la volonté de Dieu, par votre vie, a lieu, et que vous pouvez dire, comme Paul, Galates chapitre 2, à partir du verset 19, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Allez aujourd'hui, dans la foi parfaite, dans la plénitude de la foi au baptême d'eau, à l'eau, et croyant que vous êtes mort avec Christ, réconcilié avec Dieu, et que vous appartenez au Seigneur. Et ensuite, cette alliance d'une bonne conscience avec Dieu, l'affaire. Ne vous inquiétez pas concernant votre futur. Dieu, lui, a le futur. Il connaît le futur, il connaît votre futur. Il a pris toute responsabilité sur vous. Faites-lui confiance, croyez-le, et il conduira tout ceci de manière merveilleuse. Maintenant, le frère Schmitt va dire quelques paroles et ensuite nous allons prier. Qu'est-ce que serait encore à dire ? Tout a déjà été dit. La seule chose que vous avez encore besoin, c'est de croire. Pas seulement comme le monde le dit, nous croyons en Dieu, mais comme le Seigneur l'a dit, croyez en moi, croyez-moi, croyez Dieu et sa parole. Alors tout sera en ordre. Je me réjouis aussi de ce que Dieu a accordé sa grâce. L'ex rideau de fer a été ôté et beaucoup auraient pu être ici, plus auraient pu être ici de l'Est de l'Europe, mais cela n'est pas possible. Nous savons tout ce qui se passe, il s'agit du monde entier. Et le Seigneur bénit tous ceux qui écoutent en direct et voient. Que Dieu le Seigneur puisse l'accorder par sa grâce et accorder assez de force pour être prêt pour ce jour glorieux quand il reviendra. Que le Seigneur nous bénisse tous de la plénitude de sa grâce. Ainsi, nous voulons maintenant encore courber nos têtes et invoquer notre Seigneur et le remercier. Père Céleste, nous te remercions pour la grâce et la fidélité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que ton salaire est grand. Nous te remercions, Seigneur, de ce que ta mort et la résurrection est une réalité de tous ceux qui t'ont accepté et qui te croient et qui suivent ta parole. Est manifesté. Accorde ta grâce. C'est ainsi que, Seigneur, nous voulons, ils veulent rendre ce témoignage devant les hommes de marcher avec toi. Accorde cette grâce. Mais accorde aussi à nous cette grâce pour que nous puissions être rappelés, Seigneur, que nous aussi nous avons du témoignage que nous avons rendu, ô Dieu. Ainsi, soude-nous les uns avec les autres. Je te remercie pour cela. Bénis chacun qui se baptise.
Die außerhalb sind, Herr Jesus, die nicht immer hier sein können. Bitte, Herr Jesus, betreue du sie selbst.
Que tu puisses toi-même prendre soin d'eux. Par ta parole, par ton esprit, Seigneur, je te remercie pour cela. Amen.
Singen wir noch den Chorus, O Gottes Lieb, so voll und frei. Wir werden jetzt noch gemeinsam danken.
Nous allons encore remercier ensemble.
In Römer 16 und Apostelgeschichte 4
nous allons, tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, plusieurs fois, ils ont élevé leur voix d'un commun accord.
Gott den Dank dargebracht.
On remerciait Dieu. Ensemble,
singen,
nous allons chanter. Tel que nous chantons ensemble, nous pouvons aussi prier ensemble, remercier ensemble. Tout à sa place. Des prières individuelles, les prières communes, le calme aussi à sa place et aussi on peut élever la voix. Nous ne sommes pas toujours et comme dans un cimetière parfois, nous sommes aussi comme dans un cas de résurrection. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il vit. La tombe est vide. Et nous pouvons vivre avec lui. Car si nous ne remercions pas Dieu, qui devrait le faire? Si nous qui rendons les témoignages de la révélation de la parole de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ, nous, aujourd'hui qui avons cette grâce, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Cherchez une église aujourd'hui qui est en accord avec Apocalypse 19, où il est dit que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Cherchez une église. Cherchez une église où cela est une réalité. Bien, frères et sœurs, probablement que d'abord, dans l'éternité, c'est là que nous serons vraiment entièrement conscients du privilège que nous avons eu par Dieu d'écouter sa parole, de la recevoir révélée fraîchement du trône du ciel. Lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance. Nous élevons ensemble nos voix. Ça n'a pas besoin d'être vraiment, on n'a pas besoin de crier, mais vraiment, malgré tout, ensemble à haute voix. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur. La fin des temps est là. Ton retour est proche. L'âge de l'alliance est ouverte. Ta parole est révélée. Nous te remercions de tout notre cœur que tu puisses avoir ton chemin avec ton peuple et bénis dans tous les peuples, les langues et les nations, que tu puisses avoir ton chemin avec nous. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons reconnaissance aussi pour ce week-end. Et que tout le peuple dise Alléluia, Alléluia,
Alléluia,
Alléluia,
Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Avant de chanter le chœur final, nous voulons encore remettre des salutations fraternelles. En commençant par la Finlande, par la Suède, jusqu'à en bas à Palermo, jusqu'en Grèce, la Roumanie, la France, toute l'Afrique, la Suisse, l'Autriche, la Russie, la Pologne, la Tchèque et la Slovaquie, vraiment à tous ceux qui aiment le Seigneur. Aime aussi sa parole. Ne trouve aucune occasion de scandale. Ne contredis rien, mais accepte, reçoive et écoute. Et au moment où nous écoutons, alors le Seigneur peut parler avec nous et peut nous la révéler. Êtes-vous heureux de ce que nous pouvons encore nous réunir ainsi? Que Dieu le Seigneur vous bénisse, nous bénisse et soit avec nous.
Alléluia.
Sois glorifié. Chantons ce cœur.
Amen.
Amen. Il a fait. Que chacun se salue.